cet après-midi, et compte tenu du fait que vous êtes très nombreux, en ce cas plus nombreux que la salle ne l'accepte, je vais tâcher de me tenir à une durée raisonnable pour que ceux qui... un de mes amis dit que le cerveau ne supporte pas plus que les fesses ne peuvent entendre. Donc il y en a ici qui peuvent attendre plus longtemps que d'autres, mais il y en a d'autres pour qui c'est pénible. Votre professeur a rappelé tout à l'heure qu'à la Sorbonne, dans, au 12e ou 13e siècle, les étudiants étaient assis par terre. Je peux vous dire qu'avant 1968 aussi, il y avait tellement de gens dans les amphis, c'est-à-dire ça a déclenché, je pense, une petite révolution. Mais je peux vous signaler que dans mon expérience personnelle, j'ai un moment qui dira rien, sauf si je vous l'explique à la plupart d'entre vous, mais qui est assez drôle, c'est qu'en 1980, j'ai fait un long séjour dans un pays qui était interdit pratiquement à toute personne non autorisée, puis un long séjour en Albanie. C'est pourtant en plein cœur de l'Europe, vous avez entendu parler du Kosovo, etc. Et à l'époque, l'Albanie était un pays socialiste de type soviétique, mais en rupture avec l'Union soviétique, en rupture avec les Chinois. C'était un petit pays fier et socialiste et qui était impénétrable. Bon, pour des raisons que je n'expliquerai pas, mais qui étaient tout à fait honorables, j'ai passé 6 semaines en Albanie au mois de novembre 1980, et comme je m'embêtais un peu, on me faisait tout visiter, mais c'est comme c'est grand comme la région Rhône-Alpes, en 6 semaines on en a fait le tour quand même. Je suis allé à l'université pour voir comment les choses se passaient, on m'a laissé faire, et les gens n'étaient pas assis par terre, mais il faisait 6 degrés dans les salles de cours, parce que c'était pas chauffé, hein, le petit pays qui était pauvre, c'est le cas de dire. Et dernière chose, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui était quand même, ça vous faisait un coup quand on vous découvriez ça, c'est qu'à l'entrée des salles de cours, on vous distribuait du papier, et à la sortie des salles de cours, on vous reprenait le papier non utilisé. C'était pas du tout par mesure d'économie, c'était pour pas faire de tract. Allez, c'était. Hein. Donc on vous, les étudiants n'avaient pas de papier. On donnait le papier à l'entrée des cours et vous deviez rendre le papier qui n'avait pas été noirci. C'était pour éviter la propagande politique parce que le pays était un pays totalement totalitaire. C'était effrayant. Bon, j'en dirai pas plus, sauf que ça a à voir avec les communautés et donc je vais vous parler aujourd'hui d'anticommunitarisme. Je commence par une question toute simple et je vous demande d'y répondre vraiment collectivement et sans aucun... sans fausse honte, quels sont ceux qui ont une idée de ce que veut dire le mot communautarisme et quels sont ceux qui n'ont aucune idée? Quels sont ceux qui n'ont aucune idée de ce que veut dire communautarisme? N'hésitez pas à le dire, hein. Hein? Tout le monde sait ce que c'est? Hein? Mais vous savez tous ce que c'est que le communautarisme, donc je peux rentrer chez moi, non? C'est ça? Bon, allez, tant pis. Quels sont ceux qui ont juste une idée vague? Bon, ça va. On va essayer de préciser l'idée. Et je vais vous parler donc de l'identité et communautarisme. Alors, je suis un prof, hein, vous m'excuserez. Excusez-nous, hein, certains noms ici sont comme ça. Donc j'ai un plan, hein, je suis sur un plan. Donc je vais vous parler d'abord de l'identité, l'identité individuelle, la notion d'identité en général, de l'identité individuelle, l'identité collective, et ensuite je parlerai des communautés, du communautarisme. J'essayerai de me tenir dans une durée raisonnable, de manière à ce que vous ne souffriez pas trop, et si possible qu'ensuite on puisse avoir des questions. Alors, je commence par quelques notions très simples, parce que c'est une question philosophique effroyablement compliquée, sur laquelle des générations de logiciens se sont cassées la tête, sans arriver à des choses très satisfaisantes. C'est qu'est-ce que c'est que l'identité? Et alors, je dirais qu'en toute logique, avant même de dire ce qu'il y a sur ma diapositive, en toute logique, la seule chose qui soit identique, c'est une chose qui est identique avec elle-même. Hein, c'est-à-dire, en toute logique, on ne peut jamais dire qu'une chose soit identique à une autre. Une chose est identique à elle-même, se pose quand même tout de suite la question de savoir pendant combien de temps et combien de temps ça dure. Mais c'est extrêmement difficile de définir la notion d'identité. Et je dirais que pour nous, c'est le premier terme qui est dans ce diapositive, c'est l'identité, c'est la caractéristique de quelque chose qui dure, reste le même, Donc en fait, c'est un pléonasme, hein, je veux dire, je remplace un mot par un autre. Une chose qui dure et qui reste la même, et qui se distingue de tout ce qui est différent. Être identique, c'est être identique à soi, mais c'est aussi être distinct, être distinct du reste. Alors, une notion qui est fondamentale à faire intervenir, mais je dirais pas seulement dans les questions d'identité, mais dans toutes les questions que vous vous posez dans la vie en général, c'est quand vous dites d'une chose quelque chose, quand vous affirmez quelque chose, posez-vous la question des sous quel aspect, sous quel point de vue, hein, en fonction de quelle propriété. Parce que aussi bien l'identité que la différence, il faut toujours les définir, non pas en général, d'un bloc, ça ne marche pas, mais les définir par rapport à certains aspects. Et ce que les philosophes logiciens ont l'habitude de dire, c'est qu'en fait, pour être vraiment identique, deux choses devraient avoir absolument toutes leurs propriétés en commun. Toutes leurs propriétés en commun. C'est-à-dire que quoi que ce soit qu'on dise de l'une, on puisse le dire de l'autre. Quelle que soit la propriété qu'on attribue à l'une, on puisse l'attribuer à l'autre. C'est à cette seule condition que deux choses seraient identiques. Le problème, c'est que même à partir du moment où elles sont deux, il y a déjà une différence numérique, et que, en toute logique, encore une fois, on ne peut jamais dire que deux choses sont identiques parce qu'il y a déjà la différence numérique. Alors je vous passe toutes les il y a eu des milliers de pages écrites là-dessus, notamment à partir du Moyen-Âge, la logique du Moyen-Âge, pour savoir si la distinction numérique est une distinction réelle, etc. Moi, j'ai tendance à penser que là où il y a deux choses, même si toutes leurs autres propriétés sont les mêmes, c'est quand même deux choses. Tout simplement parce que c'est deux choses dans l'espace et dans le temps, et elles ne sont pas situées au même moment et au même lieu de l'espace. Prenons un exemple tout bête, c'est deux jumeaux parfaits. Deux jumeaux parfaits. Bon, eh bien, en tout état de cause, ils ont en principe, au départ, avant même d'avoir vécu quoi que ce soit, ils ont les mêmes propriétés génétiques. Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Pour toutes leurs propriétés. Ensuite, la vie va faire qu'ils auront des expériences différentes, donc ils vont avoir des propriétés différentes. Il y en a un qui aura la propriété de, par exemple, avoir été au collège inter, et puis un autre qui aura la propriété d'avoir été dans une autre école. Vous voyez, ce sera deux propriétés différentes. Mais déjà, même quand ils sont identiques au moment de leur naissance, il y en a un qui apparaît dans l'existence avant l'autre, par les voies naturelles de la naissance. Il y en a un qui apparaît avant l'autre, donc il y a une diversité numérique, et ça se traduira par le fait qu'ils n'auront pas le même numéro d'identification. Hein, vous avez tous un numéro d'identité, un numéro de sécurité sociale, comme on dit. Et ce numéro de sécurité sociale, il comporte des indications sur votre sexe, sur votre date de naissance, sur votre commune de naissance, mais aussi sur l'ordre dans lequel vous avez été inscrit sur les registres. Et ça, ça veut dire que vous n'avez pas été, vous n'êtes pas au même lieu et au même endroit que quelqu'un qui vous serait absolument semblable, mais qui viendrait juste avant ou qui viendrait juste après. Donc, c'est vraiment très difficile de dire que deux choses sont identiques. Le plus simple, c'est de dire qu'une chose est logiquement identique avec elle-même, à condition qu'on ne considère pas qu'il y a une durée de temps. C'est des notions qui sont très très difficiles à expliquer, mais encore une fois, si vous gardiez qu'une idée, c'est que quand vous posez la question de l'identité ou de la différence, demandez-vous toujours sous quel aspect, sous quelle propriété les choses se passent. Et vous allez voir toujours, tout de suite des exemples. J'ai donné des exemples très bêtes que j'ai écrits sur mon PowerPoint. Alors, je suis un être vivant, au même titre que vous tous ici. Hein, au même titre que, je ne sais pas si ça se trouve, il y a un acarien dans le tapis. Hein, vous savez, une bestiole, des parasites dans le tapis, des acariens, comme on dit, qui sont des êtres vivants. Hein. Donc je suis un être vivant comme eux. Mais, bon, j'ai fait quelques coquilles, j'ai écrit ça vite, mais je ne suis pas un animal en tant que je suis un animal qui a le langage. En revanche, ici, nous sommes tous des animaux ayant le langage. Nous sommes identiques sous cet aspect-là. Vous avez tous le langage, même si vous avez des difficultés de parler, même si l'un d'entre vous était sourd-muet, ça ne change rien. Nous avons tous le langage. Sous cet aspect-là, nous sommes identiques. Mais par rapport à un chien dans la rue, nous sommes des êtres vivants, comme lui, mais en tant que nous avons le langage, nous sommes différents, nous ne sommes pas identiques. Je suis un homme, Hein, et ici, nous sommes tous des hommes au sens des êtres humains, hein, mais je ne suis pas une femme du point de vue du sexe. Ici, quand je regarde la composition de la salle, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes des êtres humains, mais qui n'êtes pas comme moi du point de vue du sexe, parce que vous êtes des femmes. Moi, je suis un homme. Bon. Si je prends l'exemple, je ne suis pas... Non, mais je suis un homme, le problème, c'est même pas limite à trouver. Hein. La question, c'est que simplement sur ma carte d'identité, j'ai un, ça commence par un, les filles, ça commence par deux, point à la ligne. Hein. C'est comme ça que... Et si un jour vous changez de sexe, vous passerez de 2 à 1, et moi de 1 à 2. Hein. Enfin, mais c'est comme ça, mais vous voyez très bien que ça aura changé sous une propriété. Hein. Moi, j'ai eu un très bon ami, il y a une trentaine d'années, j'ai eu un très bon ami... en Angleterre, dont le père était devenu sa mère, dont le père était devenu une femme. Ça a été un des premiers transsexuels anglais. C'était le fils d'un écrivain très connu en Angleterre qui s'appelait James Morris et qui est devenu Jane Morris. Sa mère, son père avait toujours voulu être une femme. Bon, et il a changé du point de vue du sexe. Néanmoins, c'était toujours son, je ne sais plus trop comment l'appeler, hein, d'ailleurs, je peux dire. Mais c'était toujours son père, c'était toujours un parent très proche, mais du point de vue du sexe, il n'était plus le même. Bon, donc, si vous prenez l'exemple de l'âge, hein, vous êtes jeune, moi, sous l'angle de l'âge, je ne suis pas comme vous, je suis différent, je ne suis pas identique. Vous, du point de vue de l'âge, vous êtes plus ou moins tous à peu près du même âge, vous êtes tous à peu près identiques. Hein. De même, du point de vue de la taille, je ne suis pas grand, ça je le sais, hein. Je ne suis pas grand du point de vue de la taille, ça me différencie des gens qui sont grands et ça m'identifie, ça me rend ressemblant aux gens qui ont la même taille que moi et qui du point de vue de la taille sont petits. Vous voyez, chaque fois faire intervenir le point de vue, c'est très important et encore une fois, je veux dire, c'est presque une recommandation de morale que je vous fais là. C'est quand vous discutez sur des affirmations générales, dites sous quel point de vue. Sous quel point de vue? C'est-à-dire, logiquement, c'est sous quelle propriété vous êtes ceci, sous quelle propriété vous êtes cela. Alors, maintenant on passe aux choses qui sont moins métaphysiques, mais vous allez voir qu'ils sont quand même énormément. Le problème métaphysique important, c'est que nous avons une existence dans le temps. Et pas seulement nous, êtres humains, hein. Je veux dire, les objets physiques ont une existence dans le temps, l'univers a une existence dans le temps, tout a une existence dans le temps. Donc, l'identité ou la différence d'une chose, ça a à voir avec l'effet du temps sur cette chose. C'est-à-dire que nous, tout reste identique à lui-même pendant un certain temps. J'ai pris un exemple tout bête, un caillou très dur reste le même jusqu'au moment où, en général ça dépasse la durée de notre vie, jusqu'au moment où c'est devenu du sable, jusqu'au moment où c'est devenu friable, jusqu'au moment où c'est devenu de la terre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le caillou n'est plus identique à lui-même et il s'est transformé en autre chose dont on aura du mal à dire que c'est le même caillou. Bon, de la même manière que, ça vous verrez, ce sera hélas aussi vrai pour vous, c'est que c'est un thème que les artistes ont souvent traité, les âges de la vie. Commençons par être enfant, puis nous sommes jeunes, puis nous sommes adultes, puis nous sommes vieux. Hein, je veux dire, il y a un passage. Nous pensons que nous restons plus ou moins le même. Alors pourquoi? On en parlera tout à l'heure. Nous pensons que nous restons le même, mais en fait, je veux dire, il y a des changements considérables dans la durée. Je n'ai plus probablement une cellule qui n'ait pas été renouvelée, sauf peut-être celle de mon cerveau. Il y a eu un renouvellement continuel de mes cellules. Je n'ai plus les mêmes cheveux. Quelquefois, il y en a même qui n'en ont plus du tout, hein, au bout d'un certain âge. Je veux dire, mes traits se sont modifiés, même si je garde une ressemblance. J'arrive encore, par exemple, si je regarde une photographie de classe, j'arrive encore à me retrouver. En plus, j'ai pas le maladie d'Alzheimer encore, donc j'arrive encore à me reconnaître. Mais je me reconnais parce que je vois une ressemblance. Je sais vaguement que ces traits-là, c'est les traits qui sont les mêmes. Mais donc, il y a un problème de l'identité à avoir avec la durée. Alors, penser à des choses aussi tout à fait différentes, c'est une construction, hein, Au fur et à mesure qu'on répare une maison, qu'on répare un monument, qu'on le restaure, qu'on le rénove, qu'on le remet à jour, eh bien c'est le même, mais en même temps c'est pas le même. C'est pas le même. Quelquefois, c'est plus du tout le même. Quand vous regardez la plupart des très anciens monuments, ils ont été si souvent rénovés, détruits, endommagés, ils se sont tellement abîmés, que c'est le même, et il reste une certaine forme, par exemple, il reste un emplacement, il reste, je dirais, des noms, mais c'est pas forcément le même. Donc, c'est le même et pas le même, et fait, là encore, de la durée. Pensez, écoutez les discours politiques, les gens qui vous disent la France éternelle, porteuse des valeurs des droits de l'homme. C'est très souvent tous les discours, je prends forcément cette expression-là, parce que ça soit à droite ou à gauche, tout le monde est d'accord avec ça. Hein, la France éternelle qui est porteuse des valeurs des droits de l'homme. Bon, qu'est-ce que c'est que la France éternelle? La France éternelle, c'est un cadre géographique. Bon, il reste plus ou moins le même, sauf que ce cadre géographique, il s'est quand même considérablement mieux. Il s'est considérablement modifié avec l'érosion, avec la construction des villes, avec les changements du paysage, avec l'aménagement du territoire, etc., etc. Et puis la France et les Français, ben, il n'y a plus un Français, je crois qu'il doit rester un ou deux poilus de la guerre de 14, hein, il n'y a plus un Français qui a connu les années 1890. Voilà. Donc, c'est terminé. Et pourtant, on nous parle de la France éternelle, donc vous savez que la France peut garder en tant que nation son identité, mais tout a changé. Qu'est-ce que c'est qui est resté quand on dit que la France est restée identique? Donc vous voyez, tous ces problèmes, c'est identité et durée. Et encore une fois, comme je mets à la fin de mon, ma diapositive, en fait, c'est des problèmes philosophiquement qui sont très difficiles, mais nous, nous débrouillons. Quand je dis nous débrouillons, c'est-à-dire nous débrouillons pas n'importe comment, mais c'est-à-dire que nous n'utilisons pas les mêmes critères pour dire qu'une chose est identique ou qu'elle est différente. C'est-à-dire que si on appliquait, par exemple, aux êtres humains les critères d'identité qu'on applique aux cailloux, eh ben, il est évident qu'il y aurait pas, vous ne pourriez pas dire je suis le même que celui que j'étais quand j'étais adolescent. Si vous appliquiez les mêmes critères d'identité aux êtres humains qu'aux maisons, hein, je veux dire, ça ne marcherait pas non plus. Donc, en fait, on applique des critères assez différents selon les types d'objets auxquels on a affaire. Hein. On admet très bien que quelqu'un, par exemple, qu'on ne reconnaît pas, ça arrive, vous verrez, que quelqu'un qu'on ne reconnaît pas soit quand même resté le même parce que il a gardé les souvenirs, il a gardé les mêmes consciences qu'avant, il a gardé ses souvenirs. C'est quelque chose, c'est son esprit en quelque sorte dont on va considérer qu'il fait son identité. Et en revanche, et c'est une expérience que je ne vous souhaite pas d'avoir, mais que vous aurez probablement un jour ou l'autre, en revanche, c'est très gênant, par exemple, quand vous êtes en face de quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer très avancée, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus aucune conscience de lui-même, c'est très gênant pour pouvoir dire qu'il est le même, parce que physiquement, il est le même. Mais qu'est-ce que c'est que quelqu'un, un être humain qui reste le même et qui n'a plus aucun des traits mentaux et spirituels d'un être humain? Là, c'est une expérience très difficile. Autant vous arrivez assez facilement, quelqu'un que vous ne reconnaissez pas, hein, qui a eu un accident, autant vous arrivez à dire qu'il est le même qu'avant sur la base des expériences psychologiques que vous avez avec lui, autant quelqu'un qui est le même physiquement, mais qui n'est plus du tout le même psychologiquement, qui n'est même plus là psychologiquement, vous avez du mal à dire que c'est le même. Donc vous voyez, en fait, nous ajustons nos critères très régulièrement selon les types d'objets. On n'applique pas les mêmes critères aux personnes, aux animaux, aux monuments, aux entités morales, etc., etc., etc. Et ça, nous le faisons très finement. C'est-à-dire que l'être humain est extrêmement habile dans ses raisonnements, mais il est beaucoup plus mal à l'aise quand il s'agit d'expliquer comment on se débrouille finalement pour dire qu'une chose est identique et qu'une chose est différente. Mais en fait, on y arrive assez bien. Vous verrez quand je vous parle d'expériences que vous ne pouvez pas avoir encore, et par exemple quand vous aurez mon âge et que vous retrouverez imaginez-vous dans 40 ans d'ici et que vous essayez de faire une réunion d'anciens élèves de Théophile Gautier. il y a certains d'entre vous qui ne se reconnaîtront pas. Hein, parce qu'ils auront tellement changé physiquement, que la vie aura tellement changé de choses, qu'ils ne se reconnaîtront pas. Néanmoins, si vous arrivez à retrouver, par exemple, des souvenirs communs, ah, ben vous verrez qu'à ce moment-là, oui, effectivement, c'est toi que je connaissais, etc., etc., et vous remettrez des identités. Donc voilà, si vous voulez, sur identité et durée. Et maintenant, donc, j'en viens à l'identité personnelle. Là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ça, c'était, disons, des choses de préparatoire. Identité personnelle. Alors, nous sommes à peu près persuadés, sauf cas pathologique très grave, hein, quand les gens ne se reconnaissent plus, nous sommes à peu près persuadés d'être nous-mêmes, d'être le même, d'avoir une identité. Bon, mais beaucoup de philosophes ont mené ces analyses, mon corps a changé, nos idées ont changé, mes relations ont changé, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce qui fait que je me dis j'ai une identité personnelle, je suis moi, qu'est-ce que c'est que être moi? Alors il y a eu, je vous passe le détail, mais il y a eu énormément d'analyses de philosophes qui ont essayé de dire mais qu'est-ce que c'est que cette identité personnelle, si elle est ni vraiment corporelle, ni vraiment mentale, ni vraiment relationnel, ni vraiment social. Alors il y a plein de réponses, parce qu'en fait, beaucoup de réponses valent, mais il y a des points de repère. Alors, quels sont ces points de repère? Je dirais que, en gros, il y a deux catégories de points de repère dans l'identité personnelle. Il y a d'abord, aujourd'hui, des repères génétiques. L'ADN. L'ADN, vous le gardez. Sauf si vous êtes soumis, et ça viendra assez vite, à des modifications génétiques ou à des thérapies géniques ou des choses comme ça, votre ADN, c'est votre carte d'identité. Carte d'identité, c'est votre ADN. Votre ADN, vos propriétés génétiques, aussi bien, je dirais, en tant qu'être humain en général, qu'en tant que telle personne. Je passerai là-dessus, parce que c'est des sujets qui sont en pleine élaboration, mais effectivement, aujourd'hui, l'ADN d'un individu le définit en tant qu'être humain, à la différence d'une souris, d'un singe, par opposition à une souris ou un singe, et en même temps en tant qu'individu avec sa taille, ses capacités, éventuellement ses talents, éventuellement aussi ses handicaps, hein, quand vous avez un handicap ou une susceptibilité à telle sorte de maladie, bon, c'est dans votre carte génétique. Pour le moment, on l'a pas, la carte génétique, hein. On avance beaucoup là-dedans, mais on n'a pas la carte génétique. Avant, on disait c'est les parents. Avant, on disait c'est l'hérédité. Hein? Avant, on disait c'est l'hérédité. Aujourd'hui, on en sait plus là-dessus. C'est l'ensemble de votre carte génétique et l'identification de vos gènes dans le génome. Ça, c'est les points de repère. Mais aussitôt, on doit dire que ce point de repère, ensuite, point de repère génétique, il va connaître des aventures. C'est-à-dire que vous allez vivre une vie. Vivre une vie avec des expériences, il y a des choses qui vont vous arriver. Vous allez être exposé à des accidents, accidents de la circulation. Vous allez être exposé à des pollutions. Vous allez être exposé à des rencontres avec des virus, avec des épidémies, etc. Et donc, vous allez réagir d'une certaine manière. Là encore, c'est un sujet qui est en plein développement. Et non, c'est un sujet crucial, non ? En plein développement, mais ça va se modifier. Mais disons, au départ, vous avez ces données génétiques de base qui sont le point de repère. Le second point de repère que vous avez, qui n'a rien à voir avec la génétique, au moins pour le moment, c'est que vous avez un esprit. Vous avez votre esprit. Et ça, votre esprit, il va rester, il reste le même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste le même? En principe, beaucoup de souvenirs. Les souvenirs, la vie que vous avez vécue, la manière dont ça s'est organisé dans votre esprit, des manières d'agir, des manières de décider, des manières de vouloir, c'est vous. Hein? Quand vous faites quelque chose, et puis qu'en famille, quelqu'un vous dit « Oh, tu as fait ça, oh, c'est tout toi. Hein? Je t'ai bien reconnu, c'est tout toi. Hein? » On ne vous a pas reconnu au fait que vous aviez les yeux bleus, hein, ou que vous étiez, mesuriez 1m75. On vous a reconnu à une manière d'agir. Hein? Ah, tu t'es mis en colère, parce que c'est tout toi. Hein, je veux dire, dès que tu as quelque chose qui est une difficulté, tu te mets en colère et tu t'excites. C'est tout toi, c'est ton caractère, c'est ta manière d'être, c'est ta manière de réagir. Voilà, deuxième point de repère, je dirais, pour l'identité. D'un côté, je dirais, les données de départ, les données héréditaires, génétiques, et puis de l'autre, mon esprit. Et il y a certains philosophes qui ont dit, donc John Locke, qui disait, au fond, l'identité d'un individu, c'est sa mémoire, c'est aussi loin qu'elle s'étend. Je suis le même tant que je me souviens d'être celui qui a eu un certain nombre d'expériences. Le jour où je ne m'en souviens plus, je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre. Alors, par exemple, c'est le cas si je deviens sénile, je deviens quelqu'un d'autre. C'est le cas aussi où, si brusquement, par exemple, on me changeait mon logiciel de mémoire, en quelque sorte. Hein, y a un film comme ça, c'est Total Recall avec Schwarzenegger. Si on changeait mon logiciel de mémoire et qu'on implante dans mon esprit d'autres souvenirs, alors je serais quelqu'un d'autre. Imaginez que c'est un peu ce qui arrive à certains escrocs, à certains grands menteurs, les gens qui s'inventent une vie. Hein, oh, vous savez, je ne vous ai pas dit en fait la vérité sur moi, hein, mais j'ai été chasseur de serpents en Australie. J'ai machiné ça. Je vous raconte une vie fictive, si vous voulez. Si je veux bien vous raconter toute une vie fictive, mais très longue. Hein, j'invente une vie fictive, et bien je serai quelqu'un d'autre. Je serai quelqu'un d'autre parce que mon esprit sera différent. Alors, est-ce que c'est reprogrammable? Ça, c'est de la science-fiction pour le moment. Est-ce qu'il peut y avoir des accidents mentaux où vous soyez obligé de vous refabriquer une vie? Enfin, imaginez un cas d'amnésie et que vous essayez de réinventer une vie. Mais voilà, c'est deux points de repère de l'identité. D'une part, les bases génétiques, et de l'autre, les souvenirs, l'esprit, la manière de... En tout cas, quand vous devez répondre à la question « qui suis-je ?», vous n'avez pas 36 manières de faire. Qui suis-je? Je suis, d'une certaine manière, mes origines, et d'autre part, je suis mon esprit, en tant que j'ai certaines idées, certaines mémoires, et certaines manières. Alors, d'un côté, vous avez du donner, parce que vous ne pouvez pas faire en sorte que vous ne soyez pas le fils de vos parents, hein, ou le fils des gens qui vous ont donné votre patrimoine génétique. Hein. Vous êtes aussi, dans les données, il y a le fait que vous êtes né à tel moment et à tel autre. Hein. Imaginez quand vous dites, oh, j'aurais beaucoup aimé vivre au 19e siècle. Ça n'a aucun sens. Hein. Vous pouvez en rêver. Mais il se trouve que vous êtes arrivé là où vous êtes. Donc ça, c'est une donnée. Vous ne pouvez pas sauter par-dessus. Alors, vous pouvez collectionner les choses du 19e siècle, lire de la littérature du 19e siècle, écouter de la musique du 19e siècle, vous pouvez vous faire tout un cinéma, mais vous n'aurez pas ces données comme si elles vous étaient données. Vous serez obligé de les inventer, de les reconstruire. Donc vous avez du donné dans votre identité personnelle, et puis vous avez du construit, de l'élaborer, c'est-à-dire le reste, hein, c'est-à-dire tout ce qui vous est arrivé, vos expériences, la manière dont vous les avez plus ou moins bien intégrées, la manière dont vous les avez mises ensemble, la manière dont vous en avez fait une histoire personnelle. Hein, voilà. Vous avez du donné, et puis vous avez du construit. Avec le donné, vous n'avez pas beaucoup de possibilités de vous en sortir. D'ailleurs, il n'y a pas de dire « je ne veux pas le savoir hein. ». Avec le construit, vous avez d'une certaine manière des possibilités de construire et de reconstruire. Donc vous racontez des histoires. Et vous verrez, c'est une chose d'ailleurs assez passionnante au cours d'une vie humaine, vous verrez qu'on change, effectivement. On change au cours d'une vie humaine, on reste profondément le même, je pense, sur certains points, mais on change parce que on se construit différemment. Les expériences font qu'il y a un moment où on les interprète différemment, dont on les présente, on se raconte l'histoire de manière un peu différente, et à ce moment-là, ça vous fabrique, d'une certaine manière, une certaine identité. Hein. Moi, je ne crois pas trop aux gens qui... le diable qui se fait ermite ou l'ermite qui se fait diable. Vous voyez, les gens qui disent « bon, j'ai changé totalement de personnalité à la suite d'un drame qui m'est arrivé. » Mais ça peut arriver. Il peut arriver que vous réinterprétiez toute votre expérience d'une manière différente et que, d'une certaine manière, ça vous rende différent, ça vous donne une autre identité. Alors, je vous ai dit tout ça, et puis j'en termine avec ça, c'est que... parce que ce que je précise, c'est que tout ce que je viens de vous dire sur l'identité personnelle, elle vaut pour les identités collectives. On va y revenir, mais pensez-y, je ferai la transposition, et tout ce que je dis pour votre identité personnelle, ça vaut pour les identités des groupes et des communautés. Mais la dernière chose que je veux dire c'est pas la dernière complètement, hein, mais sur l'identité personnelle, c'est que être soi, ça crée des différences. Quand vous êtes identique, vous êtes différent de quelqu'un d'autre, ce que je disais tout à l'heure. Donc vous allez avoir des différences génétiques, et pas le même patrimoine génétique, même si à 99% vous êtes le même que votre voisin, il y a un petit pourcent de données génétiques pour lesquelles vous n'êtes pas le même. Hein, c'est pour ça que vous avez les yeux bleus plutôt que les yeux auburn, marron, c'est pour ça que vous avez les cheveux de telle manière plutôt que telle autre, c'est pour ça que vous êtes grand plutôt que petit, c'est pour ça que vous êtes, il y en a un qui est plus souple et un autre qui est un peu moins, etc. etc. Donc vous avez, votre identité vous fait différent. Elle vous rend différent aussi des autres sur le plan du lieu. Hein, vous êtes de Tarbes, vous êtes du Midi, vous êtes méditerranéen, vous n'êtes pas du Nord, hein, vous n'êtes pas autrichien, vous avez pas la même langue. Vous voyez, là aussi, votre identité, elle vous rend différent de gens. Quand on est identique, forcément, ça implique de la différence ailleurs. Bon, différence de génération, n'en parlons pas. Hein, je veux dire, on arrive quand même, j'espère, à se comprendre, mais différence de génération, je ne suis pas de votre génération. J'ai pas vécu les mêmes choses, j'ai pas eu les mêmes expériences. Il y a une notion très intéressante en démographie qui est la notion de cohorte. C'est différent de... C'est les gens qui subissent tous la même expérience à un moment donné. Et par exemple, un bon exemple de cohorte, c'est les gens qui ont tous fait la guerre de 14. Toute cette jeunesse qui s'est retrouvée pendant 4 ans sur les champs de bataille à se faire massacrer. Ça, c'est une sacrée expérience en termes de génération. Hein. Il y a ceux qui l'ont fait, puis il y a ceux qui l'ont pas fait. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont vécu quelque chose de comparable. Ils ne peuvent pas dire qu'ils se le sont imaginés et qu'ils savent que c'est. Non, c'est des expériences différentes. Donc, il y a des différences de génération. Et puis, il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances sur les mêmes plans. Ressemblances sur les mêmes plans. Des ressemblances génétiques. Hein. Vous avez des cas de ressemblances génétiques qui sont extrêmement attristants. C'est les gens qui sont victimes du même handicap génétique. Alors, ceux qui ont des maladies rares. Ceux qui ont une certaine maladie, par déficit génétique, et qui sont des maladies qui n'arrivent pas souvent, mais où vous avez 1000 cas en France de gens qui ont la même maladie par déficit génétique, ben, ça leur fait une identité. Hein. Ça leur fait qu'ils voient les mêmes médecins, ça fait qu'ils suivent les mêmes traitements, ça fait qu'ils connaissent les mêmes horreurs de la vie. Hein, vous voyez, ça, les identités, ça rapproche aussi. Les identités de lieu, ben, vous êtes de la même région que vos voisins, vous avez le même collège, même époque, même génération, etc. Et puis, ça donne des permanences plus ou moins solides. Hein, permanences plus ou moins solides. Si ça se trouve, la moitié d'entre vous ira faire sa vie ailleurs. Si ça se trouve, c'est pas vrai, vous resterez tous dans la région. Ça va contribuer à construire des identités proches ou construire des identités séparées. Hein. Moi, j'ai des camarades de promotion dans mes études, qui n'ont pratiquement jamais bougé, qui se sont installés à l'université d'Aix-en-Provence et qui ont passé leur vie. Moi, il se trouve que, peut-être pour des raisons génétiques, j'en sais rien, moi je suis un peu pigeon voyageur, j'ai fait beaucoup d'expériences dans beaucoup d'universités. Ça ne nous crée pas les mêmes expériences, ça nous fait des différences. Ça fait des différences très réelles et quelquefois des conflits. Donc, je veux dire, eux ils voient les choses du point de quelqu'un qui n'a jamais bougé. Hein, moi, je vois les choses du point de vue de quelqu'un qui bouge assez fréquemment. C'est des différences importantes. Alors, une chose très importante dans la définition de votre identité, mais ça, pensez-y pour vous, hein, au lieu de seulement lire, c'est que je dirais que vos manières d'agir sont très caractéristiques de votre identité. Ça, ça n'a rien à voir avec savoir si vous avez les yeux bleus, les yeux verts, si vous avez... C'est comment est-ce que vous vous conduisez? Quel style vous donnez à vos comportements? Alors, ben, y en a, vous êtes travailleur, puis il y en a d'autres qui sont moins travailleurs. Vous êtes courageux, d'autres qui le sont moins. Vous aimez prendre du bon temps? Non. Vous êtes consciencieux? Oui, il y en a d'autres qui sont moins consciencieux. Vous avez un style d'action. Style d'action, une sorte de caractère moral, disait Kant, c'est un style d'action. Quelque chose qui caractérise votre identité en tant qu'individu humain agissant. Ça, c'est très important aussi. Alors, j'ai donné l'exemple, vous voyez en bas de ma diapositive, si vous lisez DS ou je ne sais pas quoi, ou Glamour, ou je ne sais pas quel roi, je ne sais pas ce que vous lisez comme truc, mais vous avez des tests, ou psychologie, vous avez plein de tests. Hein. sachez si vous êtes une séductrice, hein, sachez si vous êtes un gagneur, hein. Ben, c'est ça, on essaye de vous faire, à travers des tests, identifier votre caractère et vos manières d'agir, identifier votre style d'action en quelque sorte. En général, on ne vous pose jamais des tests du genre essayez de voir si vous êtes un branleur, par exemple. Ça, vous ne le voyez jamais. Hein, si vous êtes un Jean-Foutre, etc. Mais, en général, on essaye de vous trouver des catégories d'action qui sont un peu plus... Alors, dernière chose, je vais très vite, c'est qu'aujourd'hui, l'identité personnelle, votre identité, je pense que, en plus, vous êtes à l'âge où on se pose des questions d'identité, votre identité peut poser des problèmes, c'est-à-dire que aujourd'hui, on nous dit toute la journée, soyez vous-même, donc soyez identique, hein, soyez bien vous-même, et en même temps, on vous dit travaillez votre identité, hein, changez-vous, améliorez-vous, Il y a aujourd'hui à l'évidence des problèmes de l'identité contemporaine, on pourra peut-être en parler si vous avez envie de poser des questions là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une obsession de l'identité, je suis moi, hein, je veux absolument être moi, et en même temps, on me propose plein de modèles pour être moi-même, et au milieu de tous ces modèles, je ne sais pas trop qui je suis. Alors ce que j'ai indiqué là en bas, en passant juste, c'est pour vous dire que notre situation contemporaine, elle est très différente de celle du passé. Elle est très différente de celle du passé, où on ne s'interrogeait pas trop, on avait beaucoup de... pas tout le temps, hein, mais on avait pas trop là, de raison de s'interroger sur qui on était, parce qu'on était de l'endroit où on était de la catégorie sociale où on était de la fatalité de la vie qu'on connaissait, et puis il n'y avait rien à dire d'autre, hein. Et j'ajoute une chose, c'est que même pendant très longtemps, on n'était même pas un individu. On n'était même pas un individu, on était un membre d'un groupe, on était un membre d'une confrérie, on était un membre d'une ethnie, mais on n'était pas un individu. On était juste quelqu'un parmi, dans ce groupe, cet individu. Je vous en donne un exemple, une illustration, c'est la signature individuelle. La signature individuelle est quelque chose qui apparaît très tard dans l'histoire. Ça apparaît vers le 15e siècle. Avant le 15e siècle, les gens n'ont pas de signature. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'identité. Hein. Ils sont de tel village, ils sont de tel groupe, ils ont un surnom, souvent un surnom, et un nom collectif ou un nom générique du genre Leroux, hein, Leroux, le Picard. L'allemand, etc. Vous voyez comment ils ont des noms. Et puis on donne un surnom. Hein. Il y a encore des sociétés comme ça. Des choses que les, des choses par exemple que les Américains n'ont absolument pas compris avant d'envahir l'Irak, c'est qu'ils pensaient qu'ils avaient affaire à une société d'individus alors qu'ils avaient fait une société de tribus. C'était une société qui fonctionnait sur le régime des tribus. Et qu'aller voir les gens un par un pour leur dire soyez des citoyens dans une démocratie. Pour les Irakiens, qui fonctionnent avec un fonctionnement tribal, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc, ben, nous, pendant très longtemps, en Occident, en Europe, on a eu ce fonctionnement tribal. On était de son village, on était de son groupe social, on n'avait pas de signature, on avait à peine un nom, etc., etc. Voilà. Alors, j'en viens maintenant aux identités collectives. Ça va aller très rapidement, parce que je dirais que les identités collectives, qui donnent lieu aux communautés, ben, c'est pareil, il faut transposer les approches précédentes, les identités collectives, elles ont quelques traits qui sont extrêmement forts, par exemple des traits génétiques, il existe des populations dans le monde, notamment dans des endroits très reculés ou très isolés, il existe des populations dans le monde où le groupe a une nature ethnique, hein. Je ne parle pas de racisme là, c'est pas du tout ça, c'est que vous pouvez établir par l'enquête génétique qu'il y a une très forte cohérence du patrimoine génétique des gens. Il y a eu des études très bien faites sur le sud-ouest de la France, des études très bien faites sur le Pays Basque, des études très bien faites aussi sur certaines ethnies du Caucase, donc dans des régions qui sont, pas le sud-ouest, mais dans des régions qui sont assez enclavées, et où on s'aperçoit que les populations gardent une stabilité génétique très forte. C'est-à-dire que le patrimoine génétique reste le même, et que, y compris d'ailleurs au plan, pas seulement au plan des traits de la taille, de la couleur des cheveux ou de la couleur des yeux, mais par exemple, certaines maladies génétiques sont plus répandues, ou bien certaines immunités génétiques sont plus répandues dans certains groupes qui sont bien isolés, bien constitués, et qui restent plus ou moins entre eux. Bon. Ce qui change tout dans l'histoire humaine, c'est que l'homme est un animal qui se déplace et qui a eu énormément de mélanges depuis et qui en a encore plus depuis le XXe siècle. Mais disons, l'identité génétique des groupes, ça existe. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas, mais on peut suivre, si vous voulez, une chose que j'avais trouvée absolument fantastique. Je vais vous donner une anecdote, ça m'avait beaucoup intéressé, ça. Je n'en étais positivement pas revenu. C'est que En 1989, il y a eu à Paris une exposition qui était très innovante, qui s'appelait Magicien de la Terre, où pour la première fois, c'était la célébration du bicentenaire de la Révolution française, pour la première fois, on avait mis ensemble des artistes venant des pays dits sous-développés ou émergents, et puis des artistes des pays développés, sans considération des pays d'origine. Donc il y avait des Chinois, des Africains, des Sud-Américains, des Européens, etc., etc. Il y avait notamment des artistes du Brésil, de Haïti, d'Amérique du Nord, etc., qui étaient montrés, puis des artistes d'Afrique. Et un spécialiste de l'art africain avait fait une intervention qui m'avait énormément troublé. Il avait dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, les similitudes d'un certain nombre d'œuvres d'art produites par des gens de Haïti, du Brésil du Nord, de l'Amérique, des États-Unis du Sud, du Ghana et du Bénin. Et il dit tout simplement, l'explication est très simple, c'est pas du tout qu'ils se sont copiés, c'est pas du tout qu'il y a des influences, c'est tout simplement, c'est les champs qui sont de Bahia, les gens qui sont de Haïti ou de la République dominicaine, les gens qui sont de certaines régions des États-Unis du Sud, ce sont les descendants de Ghanéens et de Béninois. Hein, c'est c'est les mêmes populations. Et ils sous-entendaient que dans la production artistique, il y avait une sorte de présence génétique, en fait. Et alors, il s'était assorti, en plus c'est un homme éminemment respectable, s'était assorti de statistiques sur la composition, régionale des cargaisons d'esclaves. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à Bahia, au Brésil, par exemple, il y avait eu surtout des esclaves qui avaient été enlevés au Ghana. Et donc, en fait, ils étaient venus avec leur art. Vous voyez, c'était ça. Identité génétique, ou en tout cas très très forte parenté, stabilité, etc. Bon, donc il y a des choses dans les identités de groupe qui sont extrêmement tangibles d'une certaine manière, et puis il y a des choses qui tiennent à la mémoire, à l'histoire, aux habitudes alimentaires, au langage, etc., etc. Et ça vaudrait, je dirais, à la limite pour tous les groupes, hein, de tous les groupes. Les groupes, ça peut être le groupe familial, le groupe professionnel, le groupe de quartier, les régions, les pays, les communautés autonomes au sens des Espagnols, les groupes de sportifs, les confessions religieuses, etc. Il y a toujours des composantes extrêmement différentes. Par exemple, si vous prenez un groupe religieux aux États-Unis, les Amish. L'Amish, qui sont des protestants extrêmement fondamentalistes, qui n'utilisent aucune technologie contemporaine, qui ne veulent pas utiliser d'électricité, qui ne veulent pas utiliser de moteur, etc. Ils ont une croyance religieuse qui les réunit en tant que communauté. Mais il est évident aussi qu'ils ont un contrôle extrêmement strict, compte tenu de leurs habitudes culturelles, sur les unions matrimoniales. Parce que c'est pas tout le monde qui se marie avec une Amish. Hein, parce que si vous mariez avec une femme amie, ça veut dire que vous n'allez plus prendre de voiture, vous allez prendre une carriole à cheval, vous allez abandonner tout un pan de la civilisation. Donc, la tendance, c'est que des amish se marient avec des amish. Hein, les gens se marient à l'intérieur de la secte. Donc, vous avez à la fois un groupe qui est basé sur le patrimoine génétique, ça reste le même groupe, et en même temps qui est basé sur une croyance religieuse. À côté de ça, vous avez des tas de croyances pas forcément religieuses, où c'est juste sur la base de votre propre engagement de croire que vous rejoignez le groupe sans qu'il y ait absolument rien de génétique. Si vous décidez d'entrer dans un ordre religieux, les dominicains ou les bénédictins, on ne vous demande pas d'avoir un patrimoine génétique, on vous demande simplement de croire à la règle, de croire à l'évangile, de croire à tout ça, et puis vous y allez, et que vous soyez blanc, jaune, rouge, que vous soyez grand, petit, tel patrimoine génétique, vous êtes un bénédictin, un jésuite, vous adhérez sur la base de la croyance religieuse. Donc en fait, les groupes suivent les mêmes critères, en fait, d'identité que les individus, avec des choses qui sont très réelles. Vivre dans le même quartier, appartenir à la même équipe, partager des conditions de vie, être dans le même équipage de navire. Hein, les gens qui vont partir, par exemple, pour Mars, et qui vont passer 500, 560 jours pour aller, et je ne sais pas combien pour revenir, je peux vous dire que ça fera, il y aura intérêt à ce que le groupe, au début, était bien choisi, mais à l'arrivée, si le groupe n'a pas explosé, s'ils ne se sont pas entretués, le groupe aura une communauté d'expérience que très peu de groupes auront, parce que c'est des gens qui vont vivre 500, 600 jours aller, plus autant retour, qui vont vivre 4 années dans 10 mètres carrés. Hein. Donc vous voyez, ça vous forme une expérience, hein, quelle que soit la composition, il y ait des hommes, des femmes, des grands, des petits, des vieux, des jeunes, des savants, des pas savants. Donc pour l'identité collective, vous avez la même problématique, c'est-à-dire il y a des choses qui nous réunissent dans un groupe, et puis il y a des choses qui nous séparent du coup des autres. Alors j'ai pris un exemple, les supporters. Hein. Moi je suis d'origine lyonnaise, d'origine olympique lyonnais. Hein. En tant que supporter de l'Olympique lyonnais, je ne suis pas supporter de l'Olympique de Marseille. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire je ne suis pas adhérent à un club de supporters, hein, rassurez-vous, mais je ne suis pas adhérent à un club de supporters, mais quand vous êtes... si vous êtes un supporter, c'était le stade Auceste Parbet, hein, c'est ça. Si vous êtes supporter de votre équipe de rugby locale, vous n'êtes pas un supporter de l'équipe de Lourdes, je pense pas. Hein, je veux dire, ou en tout cas, vous devez sûrement avoir un ennemi juré, hein, qui est ceux que vous voulez voir battre par votre équipe. Bon, il y a ceux du quartier, les bagarres entre bandes pour les groupes, pour les entités collectives. Il y a ceux du quartier et ceux qui sont d'ailleurs. Hein. Ceux qui sont d'ailleurs, quelquefois, ils sont juste de l'autre côté de la rue. Hein, mais c'est pas du même côté. Hein. Il y a les identités professionnelles, ceux qui sont fonctionnaires comme moi, puis ceux qui sont dans le privé. Hein. Ça aussi, ça fait une différence. Je me rapproche de gens qui j'ai la même mentalité que pas mal de gens qui sont fonctionnaires, mais j'ai pas la même mentalité que ceux qui sont privés. Il y a les croyants et les infidèles, les croyants, les pas croyants, les demi-croyants, etc., etc. Il y a, en règle générale, il y a les nous et les eux. Les eux. Réfléchissez dans votre expérience quotidienne, chaque fois que vous dites « ils ont fait ça, ils ont osé faire ça, eux, nous ne ferions pas ça, eux, ils ont fait ça », etc. Il y a les « nous » et les « eux », les « nous » et les « ils ». Ça, c'est la différence entre les groupes. Et donc, l'identité collective, c'est des choses en commun et des choses qui nous séparent. Alors, je passe vite parce que ça détermine notre rapport à l'étranger. Dans toutes les sociétés humaines, il y a une question du rapport à l'étranger. C'est-à-dire que l'étranger, c'est quelqu'un qu'on redoute, quelqu'un que parfois on respecte, à condition qu'il ne reste pas. Hein. L'autre, l'hospitalité, relisez Homère, lisez Ulysse, quand Ulysse arrive, le naufragé qui débarque, l'accidenté qu'on recueille, le pauvre qu'on héberge, etc. Mais il ne faut pas qu'il reste, et très rapidement... le respect qu'on peut avoir pour l'étranger, les lois d'hospitalité peuvent se retourner en agressivité extrême, haine, chasse à l'étranger, etc. C'est la différence entre le prochain et l'ennemi, selon que, encore une fois, les nous et les eux. Et j'ai mis une chose là, je ne sais pas si vous savez, vous comprenez ça bien, j'ai mis kimchi camembert. Parce que ça, c'était. Quelquefois, ça tient à rien, les différences de groupe. En Corée, les Coréens, ils ont un plat national, c'est un condiment, c'est une sorte de moutarde, c'est le kimchi. Kimchi, c'est du chou fermenté, du chou cru fermenté, un peu de choucroute, hein, avec beaucoup de piment. Et ça leur sert à mettre avec tout, pas avec les desserts, mais ils mettent ça avec tout. Hein, du kimchi, 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 kimchi. Un Coréen sans son kimchi, c'est un pauvre homme. Hein, ils sont en train d'envoyer un astronaute, les Coréens. Eh bien, ils lui ont fabriqué du kimchi qui peut se manger en station spatiale, parce qu'un Coréen, même en orbite, s'il n'a pas son kimchi, c'est pas possible. Et en revanche, il considère que nous sommes des gens très, très épouvantables qui mangeons du camembert. Pour nous, l'équivalent de leur kimchi, c'est le camembert. Et je dis ça parce que dans les familles, par exemple, qui unissent un Coréen et une Française, ou un Français et une Coréenne, il y a une association qui s'appelle Kimchi Camembert, vous voyez. C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils mangent les deux en même temps, mais chacun a son image. Hein. Être un Coréen, c'est manger du kimchi. Être un Français, c'est avoir un béret, une baguette, et puis manger du camembert. Enfin, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes de groupe. Alors, les identités collectives, elles sont bricolées à partir de tout ça, et j'en viens rapidement maintenant au communautarisme. Nos identités collectives, elles sont bricolées à partir de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est solide dans nos identités collectives, partie qui est très solide, en couple, là, parce qu'on change de... dans une seconde. Les identités des communautés. Vous faites des... un exercice que vous pourriez faire, si vous aviez envie, après avoir quitté la conférence, c'est prendre un bout de papier, et chacun d'entre vous, écrire, essayer de faire une liste des communautés auxquelles vous appartenez. Hein? Les élèves de Théophile Gautier, les gens de tel quartier, les adhérents de telle association, les gens qui font tel sport, les fans de tel artiste de variété, les admirateurs de tel livre. Vous faites partie de beaucoup de communautés. Hein. Nous faisons tous partie de beaucoup de communautés. Hein. Moi, par exemple, je fais partie de la communauté universitaire, je suis professeur d'université, mais en même temps, comme je participe à une émission de radio le dimanche, je fais partie de la communauté des gens qui font plus ou moins un peu de journalisme. Si vous voyez, c'est pas la même chose. Donc nous sommes tous sur plusieurs communautés. Quelquefois c'est très cohérent, ça va très bien. Quelquefois ça fait des tiraillements. Quelquefois vous avez votre communauté de la semaine et puis votre communauté du week-end, très différente aussi. Et puis, essayez de faire cet exercice, écrivez sur un bout de papier à quelle communauté j'appartiens. Et vous verrez que si vous faites cet exercice, en même temps, vous répondrez en partie à la question « Qui je suis ?» Qui je suis ? Ben, je suis un admirateur de telle personne, je suis un lecteur de Balzac, je suis un supporter de l'Olympique Lyonnais. Vous voyez tout ça ? Vous ferez la liste et vous, petit à petit, à travers vos appartenances de communauté, vous aurez une petite idée de qui vous êtes, votre identité personnelle. Et éventuellement, vous pouvez aussi, à partir de la liste, réfléchir. Donc, là-dedans, il y a un truc qui cadre pas vraiment. Hein? Alors, soit vous pouvez le garder parce que c'est une originalité ou c'est une manière de vous échapper, c'est une manière d'oublier ou de vous prendre tout à fait pour quelqu'un d'autre. Hein? Vous pouvez avoir envie le week-end de devenir quelqu'un d'autre. Hein? Et puis, en même temps, vous pouvez aussi dire, bah, tiens, il y a des aspects dans mes appartenances qui ne vont pas. Pourquoi est-ce que je continue à m'intéresser à ça? Pourquoi est-ce que je suis là-dedans? Je voudrais avoir une identité un peu plus cohérente, par exemple, hein, plutôt qu'avoir une identité que je jugerais incohérente. Faites cet exercice, il est très simple, ne demande aucun savoir particulier, simplement réfléchissez à vous, à quelle communauté vous appartenez, de quoi vous faites partie, et donc du coup, qui êtes-vous? Et donc, cette identité collective, elle a des bases qui peuvent être parfois très solides, hein. On est du même village, on a eu les mêmes, on est cousins, on fait partie de la même tribu, on a été à l'école ensemble, etc., etc. On a joué au foot ensemble, rappelle-toi, etc. Et puis en même temps, il y a un côté invention. Un côté invention, c'est-à-dire, on se raconte des histoires sur la communauté dans laquelle on était. Hein? Je veux dire, il y a des inventions. Moi, par exemple, je reste extrêmement ami avec des gens avec qui j'ai fait mes études, qui sont vraiment, l'un est devenu un très très grand mathématicien. Bon. Notre identité commune tient en fait qu'on a joué au foot ensemble. Et vraiment pas beaucoup. Hein. On a joué un peu au foot ensemble, mais on s'en est fait une montagne. Hein. Et donc quand on se voit, on se raconte des histoires de foot qui sont en général pas arrivées d'ailleurs, mais c'est notre identité commune. Hein. Je veux dire, ce que j'ai en commun avec un des plus grands mathématiciens du monde, c'est qu'on a couru après un ballon ensemble pendant une année et demie ou deux. Hein. Et qu'on en a fait la source d'une construction d'identité commune, d'identité collective. Voilà, c'est point à la ligne. Quand je vous dis qu'il y a des choses qui sont communes, et puis il y a des choses qui sont inventées, qui sont fabriquées, le folklore est souvent très inventé, les histoires de jeunesse sont inventées. On a plein de méthodes pour construire des identités, les récits, les monuments. les histoires, les cérémonies, les rites, les fêtes, le folklore, les traditions, je vous ai tout mis là, le patrimoine, les costumes, etc. etc. J'avais été très amusé, il y a 3 ans, de rencontrer au Portugal des gens du Pays Basque, des ingénieurs du Pays Basque, des jeunes ingénieurs du Pays Basque, qui étaient le prototype des ingénieurs, c'est-à-dire des types qui connaissaient bien leur boulot, qui travaillaient dans les cimenteries, qui étaient des techniciens, etc. Et le samedi, ils se métamorphosaient en chanteurs basques. Changeaient complètement d'identité. C'était fini. Ils allaient prendre leur costume et ils chantaient. Et c'était une autre identité. C'était une identité traditionnelle. Et puis après, ils reprenaient leur identité de technicien supérieur, d'ingénieur et de spécialiste d'ingénierie. Donc, alors maintenant, communauté et communautarisme, c'est assez simple. Nous faisons tous partie de communautés. Quelqu'un qui ne ferait pas partie d'une communauté, ça serait risquerait d'être fortement un asocial. Il y a quelqu'un qui vivrait tout seul, qui n'aurait aucun lien avec personne. Donc nous faisons tous partie d'une communauté, mais plus ou moins, je dirais, on admet ou non le poids de ces communautés dans notre vie. Alors il y a 2 thèses qui vont se poser. C'est la thèse individualiste, du genre... nous appartenons à des communautés, mais ce qui est important dans la vie politique, c'est que le citoyen n'appartienne à aucune communauté, sauf à la communauté politique idéale. Donc, c'est un individu raisonnable, responsable, indépendant de sa communauté, laïque, pas de croyances religieuses, elles sont dans le privé, pas d'appartenance régionale, il est impartial, pas d'appartenance affective, folklorique, etc. C'est un sujet qui est parfaitement raisonnable, un individu autonome. Ça, c'est le refus des attaches communautaires. Ça ne veut pas du tout dire qu'on n'en a pas. Ça veut dire qu'on en fait abstraction. On en fait abstraction. Je ne veux pas, quand je mets mon bulletin de vote, je ne veux pas apparaître comme étant un catholique ou étant un musulman, je ne veux pas apparaître comme étant un provençal ou n'étant pas ou étant un nordiste, je veux apparaître comme juste un citoyen français. Et encore, même français, ça serait de trop, je suis un citoyen. Je suis purement et simplement un citoyen. Je suis... Il y a un universalisme là. Je refuse la communauté. Le communautarisme, ça consiste à dire, et c'est pas idiot au départ, mais ensuite les conséquences risquent d'être gênantes, le communautarisme consiste à dire, nous ne pouvons pas être des citoyens si nous n'avons pas vraiment des attaches communautaires. Quelqu'un qui serait un pur citoyen, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Pour être un individu et être un individu libre, il nous faut avoir des attaches. Il nous faut être attaché à des communautés. Donc, nous ne pouvons pas, un citoyen est un citoyen, mais il appartient aussi à des communautés, il ne peut pas faire abstraction de ces communautés. Et là, vous avez dans l'histoire de la philosophie politique un clivage très fort entre des penseurs comme Locke ou comme Rousseau qui disent qu'il ne faut surtout pas que le citoyen dépendent de communautés, et puis des penseurs comme Burke, par exemple, ou comme Hume, qui disent on ne peut pas faire autrement que d'appartenir à des communautés, on vient avec son bagage. On vient avec son bagage dans la société politique, et on ne peut pas oublier son bagage. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, le communautarisme, c'est ça, c'est pas du tout quelque chose d'obscène ou de scandaleux, c'est simplement l'idée que mais vous allez voir qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs variantes. C'est l'idée que pour être un citoyen et un individu politique, il faut quand même aussi prendre en compte les appartenances communautaires. Le problème, c'est jusqu'où. Le problème, c'est jusqu'où, et c'est là que les choses vont se gâcher, parce que vous aurez ce que j'appelle un communautarisme doux, ou soft, on pourrait dire, qui consiste à dire on va respecter vos appartenances, mais pas au-delà de ce qui serait dangereux pour la communauté politique. On veut bien admettre que vous avez telle religion, mais ensuite, ce n'est pas votre religion qui va déterminer ce que vous dites en politique, ni les choses auxquelles vous allez obéir, c'est justement l'accord général de tous les citoyens, l'accord laïque des citoyens. Et puis, vous avez l'autre version, le communautarisme strict, et c'est celui qui, à mon avis, est beaucoup plus problématique. C'est, il y a des limites à ce qu'on peut demander aux citoyens en fonction de leurs appartenances communautaires. Pareil. Alors du coup, par exemple, on a des exemples, avant même de poser des questions sur le voile, on a des exemples qui sont intéressants. Pendant très longtemps, Maintenant, ça n'existe plus. Mais quand il y avait le service militaire, tout le monde devait faire son service militaire. Le service militaire était universel et obligatoire. Il a été supprimé. Mais pendant très longtemps, les gens qui étaient objecteurs de conscience par conviction religieuse, notamment les témoins de Jéhovah, hein, c'était les témoins de Jéhovah, quand j'étais jeune, hein, quand j'étais jeune, il existait encore un service militaire universel, la conscription universelle et obligatoire, les témoins de Jéhovah par conviction religieuse étaient non-violents, objecteurs de conscience. Pendant très longtemps, moi j'ai connu ça quand j'avais 20 ans, les objecteurs de conscience étaient poursuivis, mis en prison, pour refus d'obéir aux obligations civiques. Hein, ils étaient sanctionnés, et en général, ils étaient condamnés, d'ailleurs, à un temps de prison plus long. Les juges les condamnaient à un temps de prison plus long que le service militaire, pour bien marquer qu'ils s'exemptaient au nom de leur communauté. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de remonter au voile ou aux obligations religieuses. Eux, c'est des obligations religieuses, mais au nom de leur communauté, ils voulaient s'exempter de devoirs civiques. Bon, depuis, ensuite, on s'est aperçu, ça a été un aménagement bon ou mauvais, j'en sais rien, mais on a créé le statut d'objecteur de conscience. Statut d'objecteur de conscience, c'est-à-dire qu'on pouvait faire son service militaire comme objecteur de conscience, c'est-à-dire c'était un service civil qui était proposé, ça permettait, je dirais, de concilier les exigences communautaristes des témoins de Jéhovah et puis les exigences républicaines de la conscription universelle et obligatoire. Bien. Vous avez les deux positions, le communautarisme doux qui dit jusqu'à vous avez le droit, par exemple, d'être témoin de Jéhovah, mais on va vous faire faire un service civil. Voilà. Donc on respecte un peu les appartenances communautaires, mais on ne va pas plier sur les obligations civiques. Et d'ailleurs, le service d'objecteur de conscience était plus long que le service militaire. Il était plus long de 6 mois. Hein, je crois que quand c'était un an de service militaire, c'était 18 mois le service d'objecteur de conscience. C'était pour montrer qu'on fait une concession au communautarisme, et c'était bien avant qu'on parle de communautarisme, mais en même temps, on refuse que vous refusiez la loi civique et les principes de la République. Ou alors, en revanche, vous avez ceux qui vont, dans beaucoup de pays, qui disent la citoyenneté, les principes de citoyenneté, les principes du droit politique doivent être modulés en fonction des appartenances, en fonction des droits des minorités. Alors ça peut être soit des droits positifs, soit des droits négatifs. Hein, c'est-à-dire, par exemple, actuellement, il y a eu des discussions au Canada, et il y en a même quelques-unes qui commencent à naître en Allemagne, disant, de la part de populations d'origine migrée musulmane, disant, il y a certains aspects de la loi commune canadienne que nous refusons, et nous vous demandons, sur certains problèmes, par exemple, familiaux, la charia, l'application de la loi islamique. C'est très malin au Canada. Pourquoi ? Parce que depuis des années, les Canadiens français ont demandé des dérogations en vertu de leur appartenance communautaire française à la communauté canadienne anglophone, à la communauté canadienne tout court. Et ils ont obtenu des aménagements sensibles. Donc ils ont obtenu des concessions communautaristes. Du coup, quand d'autres communautés arrivent, les gens sont un petit peu décontenancés. Parce qu'ils disent, au fond, on nous demande des choses qui nous choquent, mais qui, du point de vue juridique, sont du même ordre que celles qu'ont donné qu'ont obtenu les Canadiens français. Les Canadiens français, une chose qui est assez choquante, c'est que quelqu'un qui est au Canada français, qui est Canadien français, ne peut pas mettre ses enfants dans une école anglophone. Il doit les mettre dans une école francophone. Ils apprennent tous, finalement, l'anglais. Hein, tous les Canadiens sont bilingues. Les Canadiens français, en tout cas, tout particulièrement, mais un Canadien français francophone ne peut pas mettre légalement son enfant dans une école entièrement anglophone. On pourrait dire, moi, j'ai plus rien à foutre d'être un Canadien français, je veux que mon enfant aura beaucoup plus d'avantages pour intégrer les grandes universités américaines, je le mets directement dans une école anglophone. Eh bien, c'est interdit, vous voyez, en vertu de la considération communautaire, c'est-à-dire empêcher que la communauté française du Canada soit mise en extinction, y compris de son propre fait. Donc, voilà ce qu'on appelle des aménagements communautaristes. Alors ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin, les aménagements communautaristes. Vous pouvez demander, par exemple, imaginons quelqu'un qui dirait, moi en vertu de mes convictions religieuses, je ne veux pas que ma fille aille à l'école. c'est contraire à mes croyances religieuses. Je pense que les femmes sont faites pour rester à la maison, se marier, occuper, avoir des enfants, etc. Je veux pas, je refuse la scolarisation obligatoire. Ça, ça serait typiquement une revendication communautariste extrémiste. Et donc, je dirais que, pour conclure, que du coup, quand on réfléchit, quand on est face au communautarisme, on a les positions de l'État, c'est en soi, l'État va garantir uniquement les droits individuels sans considération des communautés, sans aucune considération. On ne veut pas savoir quelles sont votre religion, on vous applique les droits de l'homme et la loi de droit commun, un point c'est tout. On vous applique ça, on n'a rien à vous donner d'autre. Soit l'État va garantir les droits individuels, mais avec des corrections communautaires. Alors, vous êtes témoin de Jéhovah, eh bien, je vais vous exempter du service militaire, bon, ce n'est plus le cas, mais imaginons quelque chose comme ça. Vous êtes musulman, bon, bah, je vais vous laisser, par exemple, aller à l'école avec un voile. Ça peut être un cas. Hein, vous pouvez, l'État garantira des droits individuels avec des corrections selon les communautés. Hein, excusez-moi, j'ai fait une faute. Ou alors, le vrai communautarisme, et c'est celui qui, à mon avis, est dangereux, c'est celui qui dit on va introduire des droits spécifiques selon les communautés. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'à ce moment-là, on se demande ce que c'est que le droit commun. Hein, soit chaque communauté va avoir son droit, et puis, qu'est-ce qu'on a en commun? Hein, si chaque communauté a son droit, qu'est-ce que nous retrouvons à avoir en commun, etc. Alors, quand les communautés ne sont pas trop éloignées, mettons par exemple le cas de l'Espagne, c'est la question à l'ordre du jour avec les élections. Quand les communautés ne sont pas trop éloignées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes en Europe, démocratie plus ou moins, pays développé, etc. Bon, la différence entre un Catalan, un Castillan et un Galicien, bon, on veut bien, il y a des différences, etc. C'est pas les mêmes langues, etc. Les impôts, les différents impôts, ça les intéresse pas mal aussi, au passage. Les différences sur la répartition de l'eau, ça les intéresse pas mal aussi. Mais enfin, en gros, ça peut aller. Hein. Mais, prenez le cas, en Espagne même, des Basques. La revendication nationaliste basque. Le problème de la revendication ultra-nationaliste basque. Hein, je parle pas du basque moyen ou ordinaire, si vous voulez, mais je parle des basques de l'ETA. Hein, le basque de l'ETA. C'est une revendication très forte ethnique. C'est-à-dire que il y a quelques années, lorsque les partis ultranationalistes basques ont demandé l'indépendance, ils ont demandé aussi qu'à l'intérieur du pays basque, les seules personnes qui aient droit de vote sont les personnes qui sont ethniquement basques. Alors là, on n'est plus dans le même cas de figure, si vous voulez, parce que ça fait réintroduire au sein de la démocratie les considérations d'ethnicité que toute la démocratie à considérer, à nier. Hein? Ça revient aux mêmes choses que de rétablir l'apartheid. Hein? Parce que ça veut dire qu'au Pays Basque, ceux qui ne sont pas basques, ils ont un statut d'immigré. C'est rétablir un apartheid en termes de fonction publique, un apartheid en termes d'impôts, tout ce que vous voulez. Hein? Donc quand les communautés sont très éloignées, ça fera mon mot de conclusion, c'est extraordinairement difficile d'accepter le communautarisme radical, parce que là, on tombe sur des désaccords fondamentaux, et que il n'y a plus de raison d'être dans la même société. Donc à ce moment-là, ben, chacun va de son côté, si c'est possible. Mais sinon, le risque, c'est la guerre civile, le nettoyage ethnique, les choses comme ça. Je veux dire, si le désaccord est tel, on ne peut pas faire de concessions communautaristes à des gens qui sont sur des différences de valeurs, des différences d'engagement, de civilisation complètement différentes. Moi, par exemple, je n'accepte pas. Je veux bien être français du point de vue du folklore, j'accepterai pas une définition génétique d'être français. Pour moi, être français, c'est être en France, reconnaître les lois de la République, considérer que être payer ses impôts, se dévouer à un certain nombre de choses, j'accepterai pas qu'on me demande depuis combien de générations je suis français. C'est des problèmes, c'est ça. Ça, c'est un désaccord fondamental. Et de ce côté-là, je ne discuterai pas avec des gens me disant on va distinguer entre les Français ethniquement purs et puis les autres qui ne sont pas ethniquement purs. Donc, pas ça. Voilà. Donc, je dis, j'espère que je vous ai présenté ça à peu près clairement, mais si vous avez des précisions à me demander, je suis à votre disposition. Voilà, merci. Plus de questions.